Alors, est-ce qu'on peut encore appeler ça un marché ou est-ce qu'on est juste en train d'assister à un immense sketch boursier mal joué, mal écrit, mais dans lequel tout le monde fait encore semblant d'y croire? La semaine dernière, Wall Street a donc décidé que tout allait bien. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ben, parce que c'est vendredi et c'est toujours plus pratique de monter le vendredi. Résultat excellent, on vend parce qu'on aurait pu mieux faire. Résultat pourri, on achète parce qu'un jour, ça ira mieux. Powell médite, Trump menace, Netflix se fait gifler pour avoir été trop bon, et les marchés, ben eux, ils montent encore quand même. Aujourd'hui, on va parler schizophrénie financière, storytelling boursier et illusion collective. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 21 juillet 2025 et je suis vraiment revenu de vacances cette fois. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Vendredi dernier, Wall Street nous a servi ce qu'ils appellent une séance de digestion optimiste. Les traders en avaient ras-le-bol de faire semblant, de capter quelque chose à ce marché schizophrène. Alors ils ont tout balancé à l'achat en mode tant pis, on verra bien. Pisser contre le vent fatigue, alors autant danser sous la pluie et faire comme tout le monde. Tout le monde achetait, alors on a acheté, voilà, suivez le troupeau, même si c'est pour finir à l'abattoir. C'est un peu comme reprendre une quatrième part de tiramisu après une raclette double portion, pas raisonnable, mais comme c'était vendredi, on n'allait pas se battre. Et en guise de dessert du jour, on s'est tapé une double boule au foie gras de chez Netflix, donc assez indigeste. Le petit génie du streaming est donc arrivé tout sourire avec des résultats sous le bras façon élève modèle avec un 19 sur 20 en maths et une mention du professeur et l'arrêt de côté. Plus d'abonnés, check. Des marges qui gonflent, check. Un chiffre d'affaires qui pousse à la hausse, check. Et une guidance optimiste comme un horoscope au mois de juillet, check également. Mais voilà, en 2025, faire mieux que prévu, ça ne suffit plus. Et il faut donc faire mieux que le rêve le plus fou du mec le plus tordu, le plus exigeant de Wall Street. Netflix, pourtant irréprochable, a donc pris moins 5% dans la tronche. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont fait juste parfait, pas miraculeusement orgasmique. Et ça, c'est une erreur stratégique impardonnable dans le monde merveilleux de la finance moderne. C'est un peu comme si vous organisiez une fête surprise avec DJ, open bar, feu d'artifice, et que quelqu'un venait se plaindre à la fin que c'était nul parce qu'il manquait des cacahuètes bio et des ballons en forme de licorne. Bref, bienvenue dans l'univers où la perfection n'est plus rentable. Et comme disait ce philosophe oublié qu'on appelait Calimero, c'est trop injuste. Et pourtant, malgré le Netflix Gate, vendredi était une journée parfaite pour faire semblant, parfaite pour glisser un petit rebond avant d'aller allumer le barbecue du week-end en paix. Le S&P 500 a flirté avec un record, le Nasdaq ne s'arrête plus et le Dow Jones, bah, il a fait ce qu'il fait de mieux. Rien. Un bon vieux vendredi qui monte sans vraie raison, mais qui fait du bien à l'ego collectif comme une fausse promesse de régime qu'on repousse toujours au lundi d'après. On le sait, au fond, ce rallye, on ne le mérite pas vraiment, mais on appuie sur bail et puis on verra plus tard. Et derrière ce calme de façade, c'est du théâtre de marionnettes, hein, du grand guignol sauce Bloomberg. Le marché ne monte pas parce que tout va bien, il monte parce qu'il doit monter. Parce que tout le monde attend qu'il le fasse, parce que l'IA génère des profits indécents et que les banquiers centraux flottent entre coma clinique et déni organisé et que les consommateurs achètent encore et toujours des iPhones à crédit à 18% d'intérêt. Et bref, tout tient encore, à peine, mais c'est pour que la magie continue d'opérer. Oui, vous avez vu, je suis revenu de vacances, et non, je suis pas devenu méga optimiste, pas du tout. Bienvenue dans la schizophrénie financière version 2025. Un jour, on panique pour l'inflation, le lendemain, on sabre le champagne pour la résilience, le surlendemain, on flippe que cette résilience empêche la Fed de baisser les taux, et le vendredi, eh ben, le vendredi, on achète tout ce qui bouge parce que c'est vendredi quand même. Même les algos de trading ne comprennent plus rien. Une bonne nouvelle, je vends. Une mauvaise nouvelle, alors j'achète. Une mauvaise nouvelle qui pourrait devenir une bonne excuse pour la Fed, je fais quoi? Personne ne sait, hein. Même pas ChatGPT s'il passait son CFA. Et pendant ce temps-là, l'autre feuilleton de l'été continue de cartonner, Donald et Jérôme, Jérôme et Donald. Powell, stoïque comme un moine tibétain sous l'exomile, résiste tant bien que mal à un Trump remonté comme un... Trump veut une Fed obéissante, pas indépendante, du genre « Jérôme, tu vas baisser les taux à moins de 2% immédiatement, et s'il te plaît, tu mets un emoji smiley ». Mais Powell résiste, lui, il serre les dents, il parle de data-dépendance en fixant le plafond comme s'il n'entendait pas tout ce qu'on lui disait. Il médite, il respire, il espère que Trump se laisse distraire par un parcours de golf ou une veine capricieuse. Mais la tension monte. Et s'il ne livre pas rapidement la reprise, les taux bas, le rallye de fin d'année, bah, il pourrait bien être le premier président de la Fed à se faire virer en majuscule par tweet ou alors en direct sur Fox News. En tout cas, de loin, tout a l'air parfait. Les indices montent, les boîtes publient des bons chiffres, le chômage est bas. Mais de près, on a un peu l'impression que par endroits, c'est du scotch, de rustines fiscales et des cierges allumés dans tous les sens au risque de déclencher un incendie de forêt. La croissance américaine, elle ralentit tranquillement. L'inflation, elle baisse, mais sa petite sœur vicieuse, la core inflation, elle, elle refuse de baisser, et on n'a toujours pas ressenti les effets de la guerre tarifaire qui devrait arriver en août. Résultat, les coûts explosent en attendant, les marges se crispent, les patrons ne veulent plus engager, ils hésitent, et d'ici le mois d'août, les premiers vrais effets des droits de douane devraient commencer à faire tousser le système, en théorie. Et pendant ce temps-là, les taux obligataires ont glissé légèrement, discrètement, pas assez pour faire la une, mais largement suffisamment pour que les vieux briscards du marché commencent à hausser les sourcils, parce que parfois, une baisse des taux, c'est pas forcément une invitation à sortir le champagne, c'est un message codé, une espèce d'alerte silencieuse, un murmure que seuls ceux qui savent vraiment écouter entendent. L'économie fatigue, et ça pourrait bien sentir la fin de cycle. Cette nuit et ce matin, les marchés asiatiques ont avalé les élections japonaises comme on avale un sushi pas frais au buffet à volonté du dimanche soir. Pas top, mais pas non plus de quoi appeler le SAMU immédiatement. À Tokyo, le gouvernement perd le contrôle du Sénat. Ishiba s'accroche à son fauteuil comme un premier ministre français et le yen se raffermit un peu histoire de dire « je ne suis encore vivant ». Et la bourse, elle fait semblant de ne rien voir. Bon, il faut dire que c'est férié au Japon aujourd'hui et que du coup, le Nikkei est fermé, donc ça aide à ne pas bouger. Et les hausses de taux pour la BOJ, on oublie, c'est reporté à plus tard. C'est toujours comme ça au Japon, plus tard. Et puis côté Chine, on ne touche pas au taux non plus. La stabilité façon régime autoritaire. Et pendant ce temps-là, Shanghai et Hong Kong montent tous de 0,3%, comme si de rien n'était. Les futurs américains, eux, patientent mollement, en attendant le grand déballage des résultats trimestriels. Ambiance calme, peut-être trop calme. Et pendant ce temps-là, Trump continue sa tournée des souks géopolitiques. Un accord avec l'Europe, possible, selon son secrétaire du commerce. Traduction, pas pour tout de suite. Et avec la Chine, c'est encore plus flou. Peut-être une rencontre avec Xi Jinping en octobre. Ou pas, on est passé du deal historique à peut-être un brunch ou un café vite fait au Starbucks du coin. Le 1er août arrive, les tarifs douaniers nous pendonnent et tout le monde espère un miracle qui n'arrive toujours pas, mais qui reste quand même notre mantra chaque matin. Pendant ce temps-là, le pétrole est collé à 66,17. D'un côté, vous avez les sanctions européennes sur la Russie, qui d'ailleurs n'effraient plus que les diplomates et qui ne font plus que mousser Bruno Le Maire et sa légion de déshonneur. Et de l'autre côté, vous avez les pays du Golfe qui ouvrent les vannes. Résultat, offre qui déborde, la demande est comatose et la croissance mondiale serait en chaos technique dans ces conditions. Le baril tangue, mais pour l'instant il résiste, comme Powell entre deux injonctions contradictoires de Trump. Mais dans cette grande pièce de théâtre, devinez tout simplement qui est en train de payer toujours plus cher son essence à la pompe. J'ai un indice, c'est ni Poutine ni Mohamed Ben Salman. Et puis maintenant, sujet des droits de douane, attention, l'Europe se réveille. La semaine commence gentiment, mais Macron veut sortir le bazooka, le vrai. Pas le modèle en mousse pour Garden Party. Non, l'anti-coercion instrument, c'est une arme commerciale légale européenne qui est chargée jusqu'à la gueule, qui permet de faire des tarifs punitifs sur les produits symboliques américains comme le bourbon, les Harley ou le soya, et l'interdiction pour certaines boîtes US de répondre aux appels d'offres publics en Europe, des restrictions sur les investissements US dans des secteurs stratégiques, des taxes sur les GAFAM et si besoin, un blocage des exportations européennes stratégiques qui pourrait faire très très mal aux Américains. Bref, c'est un très 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 gros bouton rouge sur lequel Macron et ses potes, ils aimeraient appuyer cette semaine. Reste à voir si Potus appréciera la manœuvre. Mais pendant qu'on s'écharpe en géopolitique, le vrai danger est ailleurs, puisque pour l'instant, au niveau nouvelle, c'est silence, l'absence totale, le néant de l'information. Et cette semaine, à part 2-3 chiffres de vente de maisons, un PMI allemand un peu mou du genou et une déclaration soporifique de la BCE, il ne se passera rien. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que quand le marché sont merde, eh bien, il invente, il fantasme et il délire. Il transforme une rumeur de machine à café en tendance globale. Et parfois, c'est dans ce vide-là, ce vide intersidéral, que naissent les corrections. Pas brutales, pas visibles, mais glissantes, vicieuses, hein. Discrètes, vélémeuses, les pires d'ailleurs. Heureusement, on a les trimestriels pour animer un petit peu la fête cette semaine. Et cette semaine, ça commence à sentir la poudre, hein. Verizon, NXP, Coca, GM, SAP, Tesla, Alphabet, IBM, Intel, LVMH, Total, Nestlé, BNP, Volkswagen, Eni, Roche et encore, j'en oublie, la liste est longue comme une dette américaine et encore les Mac 7, c'est pour la semaine suivante, le reste des Mac 7 pour la plupart puisque Nvidia viendra plus tard et que Google, c'est cette semaine. Bref, préparez-vous à des montagnes russes émotionnelles, de très bons résultats qui feront chuter les titres, des résultats catastrophiques qui feront bondir les actions. Bienvenue en 2025, l'année où les fondamentaux sont en option et où c'est le storytelling qui conduit la voiture. La conclusion de tout ça, c'est que la finance est une illusion collective. On vit une époque où la logique a pris des RTT illimités et les fondamentaux sont devenus secondaires. Les analystes sont des scénaristes, les modèles des fictions, les marchés des acteurs et nous, on regarde le film en essayant d'y croire. La vérité, si je mens, ben c'est que plus personne n'a de certitude. On est tous sous perfusion de narratifs. Un jour, les actions montent parce que tout va mal. Le lendemain, elles chutent parce que tout va trop bien. Les taux ne reflètent plus la réalité, mais les caprices d'un président, tout simplement. Et tant que ça monte, bon, on dit rien, on encaisse, on like et on partage. Mais bon, par contre, tôt ou tard, il faudra quand même peut-être bien se réveiller et revenir dans la réalité. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse-Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, justement, on en parlait il y a 10 secondes, et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Allez, passez une très bonne journée. Bye bye.